Chapitre 63. Le trou à laine, belvédère des quatre fils aimants, Bonny-sur-Meuse. Christophe, toujours au bord du trou à laine, s'était avancé autant qu'il le pouvait. La pointe de ses bottes mordait sur le vide, son cou s'étirait pour tenter d'apercevoir le fond du gouffre. De toute sa vie, Christophe n'avait jamais ressenti le moindre vertige. Il n'allait pas tomber, sauf si on le poussait. Amos en avait-il envie? Son frère ne rêvait-il que de cela? Être libéré de son aîné, qui le rappelait sans cesse à sa promesse, à son devoir, à leur vengeance. Être libéré. Amos serait incapable de se débrouiller seul. Amos et lui étaient alliés par la même blessure. Ce n'était pas une question d'amour, mais de survie. Christophe lutta pourtant contre l'envie de se retourner, de vérifier qu'Amos ne s'approchait pas dans son dos. Il se força à se concentrer sur tout le reste. Le trou sombre devant lui, les arbres, les fourrés, les herbes hautes mollement secouées par le vent. Guettant le moindre autre mouvement. Il attendit, puis finit par reculer. Rien ne bougeait. « T'as raison, » écrivit-il tout en replaçant la bandoulière de son VZ-58 sur son épaule. « La gamine a dû tomber. On va devoir se débrouiller sans appât. Les moutons ne vont pas tarder à rappliquer. » Il pivota. Son frère se tenait à 10 mètres de lui, les yeux mouillés de larmes, le visage déformé par la douleur. Amos devait pourtant éviter de pleurer. Les médecins étaient formels, les larmes rongeaient à vif sa cornée, autant que de l'acide.
« T'es qu'un salaud !» explosa l'aveugle. « Cette gosse est morte à cause de nous !»
La colère d'Amos paraissait sincère. Christophe sourit, rassuré. Ainsi c'était vrai, son frère avait vraiment entendu cette gamine tomber. « Je te l'accorde, » écrivit Christophe. « Elle ne méritait pas de mourir. Hans Bernard n'est pas son père. Aucun sang de Mina ne coule dans ses veines. Pauvre petit Agnel. » Je voulais juste l'attacher à un piquet, pas la sacrifier. C'est toi, Amos, en lui ouvrant la barrière, qui l'a tué.
28, 29, 30.
Lola parvenait maintenant à retenir sa respiration plus longtemps. Entre les branches de sa cabane, elle voyait sans oreille faire demi-tour. C'était lui le plus effrayant. C'était lui le méchant. Et il lui tournait le dos.
C'est le moment, pensa Lola.
Le moment de quitter sa cachette et de courir droit devant. Elle pourrait faire autant de bruit qu'elle voudrait, sans oreille ne l'entendrait pas. Elle devait en profiter, s'éloigner du trou et courir le plus loin, le plus vite possible. Elle vérifia une nouvelle fois que sans oreille marchait toujours dans la direction opposée, qu'il n'avait aucune raison de se retourner, et se lança. Elle écarta facilement les branches de sa cabane, comme des barreaux de prison ramollis, progressa un peu accroupie, puis aussitôt qu'elle le put, se redressa. Encore quelques tiges à casser pour se frayer un chemin de bébé sanglier, et elle pourrait sprinter. Encore 3 mètres, et elle serait sauvée. Elle entendit les pas de Bison derrière elle.
« Ne te retourne pas, » pensa-t-elle. « Sauve-toi, continue tout droit. »
Mais elle se retourna et hurla.